va parler sur notre attitude dans les combats. Dans le psaume 18, au verset 1, « Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Nous connaissons tous des combats dans la vie, des combats dans la prière, des combats peut-être familiaux parce qu'un enfant a quitté le foyer et s'est éloigné loin du Seigneur. Alors nous prions dans la foi pour qu'il revienne à Dieu. Il y a des combats dans le travail, dans peut-être dans de l'opposition, dans le milieu où vous êtes ou dans la famille, parce qu'il y a des conflits, il y a des combats. Et tout cela génère des moments de combat contre la maladie, contre toutes sortes d'oppositions, et nous sommes dans la prière et dans la foi. Maintenant, nous savons qu'en tant que chrétiens, et c'est vrai pour tous les chrétiens, nous rencontrons des combats plus ou moins puissants et aussi plus ou moins fréquents. Quand on parle de David au psaume 18, nous savons qu'il a eu de nombreux combats tout au long de sa vie. Il a commencé par confronter le lion et l'ours quand il était encore jeune berger. Il a confronté le géant Goliath lorsqu'il est allé sur le champ de bataille. Il a dû combattre les Philistins toute sa vie. Et dans sa propre famille, il y a des combats qui ont surgi qu'il n'a pas vu venir. Il y a eu même des enfants qui se sont entretués. Il a un enfant qui s'est retourné contre lui et qui a voulu le faire mourir, qui l'a fait fuir de Jérusalem. Ce sont des combats que nous ne voyons pas venir, mais qui nous tombent dessus et qui font partie de la vie. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons aussi des combats à notre portée. Bien sûr, ce sont des combats différents que Goliath ou que les Philistins qui étaient dans l'Ancienne Alliance, mais c'est une image. Ce sont des images pour nous rappeler qu'il y a des combats qui existent aujourd'hui, nos ennemis sont invisibles. Souvent, ce sont des Saül invisibles ou des Goliath invisibles. Mais Paul dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, ils sont là, nos ennemis, dans le monde invisible, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alors c'est important de comprendre dans quel combat spirituel nous sommes aujourd'hui. Par exemple, quand Jésus reprenait les pharisiens, vous savez que Jésus a eu des paroles dures. Parfois, il les reprenait sévèrement. Mais Jésus aimait les pharisiens, mais il luttait contre l'esprit de religiosité qui était derrière les pharisiens et qui les tenait aveuglés. Il luttait contre cet esprit. C'est pareil pour Paul, quand il était suivi par une femme pythonisse, c'est-à-dire qui disait l'avenir, il a parlé durement à l'esprit en chassant l'esprit de cette femme. Mais Paul aimait cette femme, mais il luttait contre l'esprit qui dominait cette femme. Et là, il a eu des paroles sévères et lui a ordonné de quitter cette femme. Ce sont des combats spirituels. Donc, il ne faut pas nous arrêter à la chair et au sang. Il ne faut pas nous arrêter aux choses visibles, mais comprendre que derrière, il y a des choses invisibles, des éléments invisibles contre lesquels nous combattons. Donc, je reviens à David au verset 2 et 4. On voit que David commence dans le combat, puisque c'est notre attitude dans le combat qui va être déterminante. D'abord, il commence dans le combat par la louange et l'adoration. Les versets 2 et 4, ce sont des intentions de reconnaissance envers Dieu qui intervient. Il le loue, il le bénit. Et les premières paroles de David dans son combat, en fait, quel est le principe à retenir? C'est la reconnaissance, c'est la louange, c'est l'adoration. Il pourrait commencer, par exemple, par supplier Dieu d'intervenir ou crier à Dieu ou demander à Dieu d'intervenir dans ses problèmes, montrer à Dieu combien il est dans des grandes difficultés. Mais il commence par louer le Seigneur et lui rendre gloire pour sa puissance, pour sa majesté. Et en fait, quand vous louez le Seigneur, ça attire la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Il siège au milieu des louanges. Il aime les louanges. Il ne siège pas au milieu des plaintes et des lamentations, au milieu des critiques, au milieu des gémissements. Il siège au milieu des louanges. Donc si vous voulez être en communion avec Dieu, commencez par louer le Seigneur pour entrer dans sa présence. David a pris la décision de louer Dieu dans les temps favorables ou défavorables. En fait, il a découvert ce principe, c'est que quand il loue Dieu, Dieu combat pour lui. Et pour nous, c'est pareil. Quand nous louons le Seigneur, il combat pour nous. Les combats sont trop nombreux pour nous, ils sont trop puissants, nous n'avons pas les moyens, on ne sait pas comment faire. Mais déjà, ce que nous pouvons faire, c'est venir avec reconnaissance dans la présence de Dieu. Il y a un roi de l'Ancien Testament qui s'appelait Josaphat, qui a compris ce principe. Il était en combat contre deux armées très puissantes, les Ammonites et les Moabites. Entre parenthèses, ce sont les descendants de Lot. Lot qui avait péché, qui s'était éloigné de Dieu, ça a donné deux peuples ennemis du peuple d'Israël qui maintenant attaquent Israël. Les Ammonites, fils d'Ammon, donc fils de Lot, et les Moabites de Moab, fils de Lot aussi. Et donc, alors qu'il est attaqué par cette multitude, la Bible dit une multitude forte et nombreuse. Ça veut dire que, sur le papier, en tout cas, ce roi de Juda, Josaphat, n'a aucune chance de s'en sortir. Mais il va chercher l'Éternel, et c'est ce qui va faire la différence. Alors qu'il est là dans le jeûne, la prière, il a convoqué le peuple en s'attendant à Dieu. En fait, dans ce jeûne et prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par rappeler tous les hauts faits de Dieu, la gloire de Dieu, sa bonté, comment il est intervenu dans le passé. Il va montrer à Dieu combien il est puissant, combien c'est le Dieu d'Israël, combien il est intervenu pour Abraham. Il va louer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et puis au verset 12, donc dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 12, il termine en disant « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, c'est-à-dire sur ses ennemis qui nous entourent, c'est le combat dans lequel il est, car nous sommes sans force, ça c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés souvent, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et ça, c'est très important. Il mentionne la réalité dans laquelle il est. Nous ne savons que faire. Nous sommes sans force. Nous n'avons pas les moyens. Mais nos yeux sont sur toi. Nous développons une autre vision, une vision de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas regarder vers le problème, mais regarder vers la puissance de Dieu. Il va développer cette vision de foi. Nos yeux sont sur toi. Est-ce que ce matin, vos yeux sont sur le problème ou est-ce qu'ils sont sur le Seigneur? Si vos yeux sont sur le Seigneur, vous pouvez vous attendre à la puissance de Dieu, parce que Dieu est tout puissant, il est merveilleux. Et Josaphat, donc, dans la prière, alors qu'il est là avec le peuple, il va laisser l'Esprit agir, et un prophète qui s'appelle Jacaziel va recevoir de Dieu que ce n'est même pas la peine que l'armée combatte, parce que Dieu combattra pour vous. Et Josaphat, le roi, va prendre cette parole de Dieu comme une vérité prophétique. Il va avoir l'audace de mettre devant l'armée les chantres et les musiciens qui vont louer le Seigneur. Et c'est ainsi qu'il est parti au combat contre des armées ennemies, avec les chantres et les musiciens qui louaient le Seigneur. Et c'est important, un petit détail dans ce texte qui dit qu'au moment où les chantres commencèrent à louer le Seigneur, Dieu est intervenu pour combattre les ennemis d'Israël. Mais c'est précisé au moment où les chants ont commencé. Pas avant, mais au moment où la louange a pris place, Dieu s'est manifesté. Et ça veut dire pour nous, eh bien, que Dieu agit en son temps, quand il le décide, mais en tout cas que la louange est favorable pour permettre l'action de Dieu. Donc commençons toujours par louer le Seigneur. Le deuxième principe, toujours dans notre attitude, après la louange, c'est la prière dans le combat au verset 5 à 7. « Les liens de la mort m'avaient environné. » Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Et maintenant, nous passons à la prière. C'est une grande attitude que nous devons avoir dans le combat. C'est la prière de la foi. On sait que David est passé près de la mort à plusieurs reprises dans sa vie parce que Saül voulait le tuer, parce qu'il a fui. En fait, l'essentiel de la vie de David, c'était qu'il fuyait Saül toute une partie de sa vie. Il devait se cacher dans les grottes. Et à un moment donné, la Bible dit que dans le désert de Mahon, alors que Saül et son armée étaient sur lui, il l'avait encerclé. Le texte dit que Dieu a suscité un ennemi à Saül pour qu'il revienne précipitamment à Jérusalem. C'est-à-dire que David était perdu en réalité, il n'avait pas le poids contre l'armée de Saül. Mais c'est Dieu lui-même qui est intervenu pour débloquer la situation. Et quelquefois, nous sommes un peu comme David, encerclés, sans issue, et nous ne pouvons rien faire. Strictement, David ne pouvait rien faire. Ce n'est pas lui qui allait susciter un ennemi à Saül, mais c'est Dieu qui, dans sa puissance et sa sagesse, est intervenu au moment, j'allais dire à l'instant T, pour délivrer David de cette situation sans issue. Et Saül, qui pourtant était sur le point d'attraper David, a dû le laisser là et retourner à Jérusalem contre les Philistins qui attaquaient. Donc, on doit faire vraiment confiance à Dieu qui intervient dans notre combat alors que nous prions, et c'était l'attitude de David, alors que lui demandons sa grâce, eh bien, Dieu a des solutions pour nous sortir de ces situations. On passe parfois par des situations sans issue, mais frères et sœurs, nous avons recours à la prière de la foi. La prière de la foi change les choses. En fait, la situation ne va pas changer forcément tout de suite, mais la prière de la foi déjà prépare le terrain. Le texte dit « De son palais, il a entendu ma voix ». Déjà, il se passe quelque chose dans le monde invisible. Même si sur le plan humain, sur le plan visible, il ne se passe rien en apparence, déjà l'Éternel a entendu ma voix et il prépare quelque chose, un plan pour nous sortir. On appelle ça la prière de la foi. Quand vous priez, ben vous devez croire que Dieu entend votre prière. On ne le voit pas avec nos yeux, mais notre prière monte devant le trône de Dieu. Et c'est la foi qui va faire la différence entre quelqu'un qui prie sans la foi et quelqu'un qui prie avec la foi. Si vous priez sans la foi, eh bien votre prière finalement n'aboutit pas. Mais si vous associez la foi à la prière, qui est comme une pièce, deux pièces de puzzle qu'on va associer, eh bien ça devient puissant, ça monte vers le trône de Dieu et ça devient efficace. La foi donc fait la différence. Dans ce texte, à partir du verset 5, David montre qu'il était près de la mort. Les liens de la mort m'avaient encerclé. Il parle aussi des torrents de la destruction qui sont venus sur lui. Il parle de la détresse dans laquelle il se trouve. Ça, c'est sa situation réelle. Mais son attitude, c'est « L'Éternel a entendu ma voix » alors qu'il est dans cette situation. Alors, si vous regardez à vue humaine, vous allez regarder les torrents de la destruction, vous allez regarder ces liens de la mort qui vous encerclent, peut-être cette détresse, mais le regard de la foi, c'est un autre regard. Je prends l'exemple de cet homme bien connu, Abraham, qui est le père de la foi. Lorsqu'Abraham a eu cette promesse de Dieu qu'il aurait un enfant, personne n'y croyait, même lui, il avait du mal à maintenir le cap dans cette optique d'avoir un enfant avec Sarah, puisqu'elle était stérile. Le texte dit dans Romains chapitre 4, Paul écrit que Abraham, il n'a pas considéré qu'il était déjà âgé, il avait près de 100 ans, il n'a pas considéré que sa femme était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle était trop âgée pour avoir des enfants. Mais le texte dit, au verset 21, qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est avec cette pleine conviction que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Ne pas considérer les difficultés présentes, ne pas considérer les obstacles, mais venir devant Dieu avec une pleine conviction. Est-ce que nous avons cette pleine conviction? C'est la foi qui fait déplacer les montagnes. Cette pleine conviction, elle va vous permettre de croire alors que tout ce que vous voyez vous dit « c'est pas possible ». La pleine conviction. Entretenons-la dans notre cœur et si vous ne l'avez pas, demandez à Dieu de nourrir votre foi, d'arriver jusqu'à cette pleine conviction que quand bien même vos yeux vous montrent que c'est pas possible, mais votre conviction vous dit c'est possible, parce que Dieu est là, parce que Dieu va changer les choses. Voyez la prière de la foi. Ça, c'est la deuxième attitude que nous devons adopter dans le combat. Après la louange, la prière de la foi. Troisième attitude au verset 19, c'est la vigilance maintenant dans le combat. Il m'avait surpris, c'est-à-dire les ennemis de David. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'avait surpris. Une autre version dit, il m'attendait au jour de la détresse. Il y a des ennemis qui vous attendent, il y a des ennemis qui vont vous surprendre au jour du malheur. La plupart des chrétiens ne prient qu'occasionnellement, s'ils y pensent, s'ils ont le temps. Si à la fin de la journée, ils ont un petit espace pour prier, ils le prennent. Mais s'ils n'ont pas le temps, ils le mettent de côté. Or, la prière doit être vraiment une priorité dans notre agenda. Chaque matin, un temps réservé pour le Seigneur. Un moment pour se consacrer à Dieu. Je dirais les premières heures du réveil, le premier moment du réveil, quand on se tourne vers Dieu, c'est là qu'on rentre en communion avec lui. Laissons de côté encore les infos, les médias et toutes les sollicitations par mail, etc. Et consacrons-nous au Seigneur, présentons notre journée au Seigneur. On prie, ça montre quoi ? Ça montre que Dieu est plus important que tout le reste. Et ça plaît à Dieu quand on lui consacre notre journée. On remet notre journée. Il y aura peut-être des pièges, il y aura peut-être des moments difficiles, mais il y aura aussi des opportunités, il y aura des bénédictions. Et tout cela, on le remet entre les mains du Seigneur. Psaume 118, verset 24. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Dès le matin, on peut dire « Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour les bénédictions que tu as préparées d'avance. » Que ça soit un sujet d'allégresse, un sujet de victoire, un sujet de bénédiction, un sujet de joie. Voilà comment il commence sa journée, David. Alors, Jésus nous recommande aussi d'être vigilants dans Jean chapitre 12, verset 35, c'est-à-dire de veiller et prier sans cesse. « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Donc il y a un temps, c'est le jour, et il faut profiter de ce jour peut-être qui se lève, les premières heures du jour, très tôt le matin, pour se tourner vers le Seigneur. Il y a une activité dans les ténèbres, vous voyez, les ténèbres, elles veulent vous surprendre, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. C'est-à-dire que nous ne le voyons pas, mais très tôt aussi, dans le monde spirituel invisible, il y a l'ennemi et tous ces démons qui font des plans et des projets pour détruire. Parce que Satan, lui, il travaille à nuire à l'œuvre de Dieu. Il se déguise en ministre de justice, il se déguise en ange de lumière, il fait des plans, il a empêché Paul d'aller prêcher à un certain endroit, donc il fait ses plans, il essaye toujours d'anéantir les projets. Et puis, vous ne le comprenez pas, tout d'un coup, certains vont se retourner contre vous, vont s'opposer à vous. En fait, ce n'est pas contre vous directement, mais c'est contre l'esprit qui est en vous, parce que Jésus est en vous. Il y a un texte qui dit dans Jacques chapitre 2, verset 7, et on voit que c'est spirituel. Il parle ici des riches qui oppriment les pauvres, et il dit, n'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Et le beau nom que nous portons, c'est le nom de Jésus. Nous portons un beau nom, le nom de Jésus. Et ça, c'est dans le monde invisible, c'est dans le monde spirituel. Nous portons le beau nom de Jésus. Alors, quand des gens vont s'opposer à vous, ils s'opposent à Christ qui est en vous, parce qu'ils ne supportent pas Christ, et vous comprenez pas pourquoi, mais c'est spirituel. Il y a une opposition spirituelle entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et nous, nous portons le beau nom de Christ sur notre vie. Gloire à Dieu. Ça génère des combats. Lors du retour de Jésus aussi, beaucoup seront surpris. C'est pourquoi Jésus dit « Veillez et priez, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes, il y aura des famines. Veillez et priez. » Mais quand vous verrez ces choses, il dit « Relevez la tête et attendez-vous à la délivrance. » Elle est proche. C'est comme ça qu'on doit être dans ces temps de la fin. Donc c'était le troisième attitude, ne pas se laisser surprendre, mais veiller. Ensuite, au verset 23, une quatrième attitude que je vois dans ce psaume, dans les combats, c'est maintenant la droiture dans les combats spirituels. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces lois. J'ai été sans reproche envers lui, c'est-à-dire envers Dieu, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture, mais avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. La droiture dans le combat. David donc a connu ce principe, c'est que on ne peut pas combattre quand on est dans le désordre, dans le péché. On ne peut pas triompher si on a des péchés devant Dieu, si on n'a pas réglé certaines choses. Si notre cœur n'appartient pas au Seigneur entièrement, si on n'a pas laissé Dieu régner sur notre vie. Si vous vivez dans un péché dissimulé, vous ne pouvez pas vaincre. Si vous trompez votre épouse, si vous convoitez la place de quelqu'un, si vous cherchez toujours à vous mettre en avant, si vous êtes orgueilleux, eh bien tous ces péchés-là, ils vont combattre contre vous, mais vous ne pourrez pas triompher parce qu'ils domineront sur vous. La victoire, en fait, ne peut s'obtenir que par la droiture de cœur. Ça, c'est un principe que David a bien compris. On ne peut pas tromper Dieu. Et il l'a vraiment expérimenté. On connaît son histoire. Il a eu des gros échecs. Il a eu des grosses lacunes. Et il ne pouvait pas tromper Dieu. Et il a dû se repentir pour repartir d'un bon pas. L'intégrité, et encore aujourd'hui, c'est une des conditions pour triompher dans le combat. Donc, examinons-nous nous-mêmes. Demandons pardon au Seigneur, déposons toute jalousie, toute pensée impure, toute amertume, parce que au moment du combat, si ces choses ne sont pas réglées, elles vont combattre contre vous et vous ne pourrez pas triompher. Certains chrétiens s'infectent eux-mêmes parce qu'ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne peuvent pas combattre, mais ils infectent aussi leur entourage. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Qu'est-ce que l'auteur aux Hébreux explique ici? Il dit que certains se laissent infecter par des mauvaises pensées, par des pensées vaines, par de la jalousie, par de l'amertume, par de la rancœur. Non seulement ils ne peuvent pas triompher dans leur propre combat spirituel parce qu'ils ne vivent pas l'intégrité, mais en plus, ils sont en train d'infecter les autres personnes autour d'eux, c'est-à-dire leur famille, leurs amis, leurs connaissances. Ils déversent sur eux leur amertume et ils se trouvent infectés eux-mêmes par leur comportement. Voyez que quand on n'est pas intègre, quand notre cœur n'est pas entier pour le Seigneur, eh bien, nous donnons des armes aux malins pour lutter contre nous. Et c'est ce qui se passe dans le cas de l'amertume. Donc, votre intégrité, au contraire, ça va être une puissance contre le malin. L'ennemi ne peut rien faire contre un chrétien intègre, et il le sait. C'est pourquoi, à un moment donné, Jésus dit même, à propos du diable, il dit « Le diable, il n'a rien en moi ». C'est-à-dire que le diable, quand il essayait de piéger Jésus, il n'arrivait jamais à le piéger, parce qu'il n'y avait rien, il était intègre. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de possibilité pour le diable d'agir. Satan, lui, il est à l'opposé de l'intégrité, il est menteur et le père du mensonge. Tandis que si nous sommes en Christ, eh bien, nous devons être intègres, chercher la pureté, la vérité, la droiture, sans laquelle, le combat sera impossible, parce que nous aurons donné des armes à l'ennemi. Le verset 30, une cinquième attitude, c'est maintenant l'audace. David écrit, avec toi, c'est-à-dire avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ah, David, il n'a peur de rien. Il est audacieux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec Dieu, ça commence toujours par « avec Dieu », il sait que là, tout est possible et qu'il peut surmonter une muraille. Il peut même affronter une troupe armée. Avec Dieu, il met Dieu en premier et la victoire lui appartient. Quel genre de foi l'anime? Eh bien, il est dans le genre de foi qu'il croit qu'avec Dieu, tout est possible. Au psaume 108, verset 13, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous mettons Dieu en premier, la victoire est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Béni soit notre Dieu qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. » L'audace. Mais quand on voit les ennemis, il faut avoir l'audace de les confronter. L'audace d'aller à leur rencontre avec la foi. L'audace qu'avait David. David était encore un jeune berger lorsque son père l'a envoyé vers ses frères qui étaient au combat. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, il entend ce géant Goliath parler contre le Dieu d'Israël. Et il ordonne à cette armée d'Israël qui est limitée de trouver un seul soldat qui viendra le combattre. Et il dit, le vainqueur du combat sera le vainqueur de toute l'armée. Eh bien, il n'y avait aucun soldat qui osait relever le défi. Le roi lui-même, Saül, qui pourtant était l'homme le plus puissant, le plus considéré, il dépassait tout le monde d'une tête. Il n'osait pas confronter Goliath. Mais David, lui, tout simple, mais parce qu'il avait déjà l'audace. Il avait déjà l'audace. Lorsqu'il entend, ne serait-ce que les paroles de ce géant Goliath, il dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter le Dieu vivant? Qui est-il? Moi, j'irai me battre avec lui. Vous ne trouvez pas que c'est de l'audace? Un jeune berger, il a jamais fait la guerre, il n'a pas d'armes, mais il a l'audace de la foi. J'irai me battre avec lui. Et remarquez ceci, c'est que ces paroles audacieuses, qu'on pourrait presque penser orgueilleuses, c'est ce qu'a pensé son frère. Il disait, mais toi, tu es un orgueilleux. C'était presque orgueilleux à vue humaine, mais c'est de l'audace de la foi. Et cette audace de la foi, qui pour certains apparaît comme un orgueil, en fait, cette audace de la foi a conduit David jusque devant le roi Saül. En fait, l'audace de la foi va vous ouvrir des portes pour vous amener vers les personnes décisives. Et c'est le roi Saül qui va lui donner l'autorisation d'aller combattre Goliath. Alors, il va essayer de le protéger avec son armure, etc. David a dit non parce qu'il a l'audace. Il a dit, moi, j'irai avec ma fronde, j'irai avec mes 5 pierres et j'irai confronter le géant. Et il a eu raison. Il s'est tenu à part dans la prière. Il est allé vers le Philistin et le texte dit qu'il a couru vers le géant. Encore l'audace. Et quand vous voyez la vie de David, vous voyez l'audace de la foi tout le temps. Il était audacieux. Il osait prendre des risques pour Dieu. Et en fait, des risques mesurés, c'est-à-dire des risques, pas de la folie, mais des risques sachant que Dieu est au-dessus. Il est plus puissant que ses ennemis. C'est ainsi que nous avançons. C'est pas prendre des risques de folie, faire des choses insensées. David prenait un risque, une audace de la foi, mais mesurée, sachant que Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de prier. Il est allé au torrent. Il a réuni les 5 pierres. Il avait sa fronde. Vous voyez, il avait fait son plan. Il savait comment il allait avancer, etc. Donc la difficulté peut parfois nous paraître insurmontable, mais Dieu nous a promis sa présence. Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux », c'est une promesse de Dieu, « si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » L'audace de traverser parfois le feu, l'audace de traverser l'eau, mais en comptant sur la grâce de Dieu, parce qu'il nous a promis sa présence. L'audace de Pierre parmi les 12 disciples qui a quitté la barque pour aller sur l'eau à la rencontre du Seigneur. L'audace a permis à Pierre de faire un miracle, de vivre un miracle, pardon, en marchant sur l'eau. S'il n'avait pas eu l'audace, il n'aurait pas vécu ce miracle extraordinaire. L'audace de Rahab, la prostituée qui était dans cette ville de Jéricho qui allait être détruite, elle a eu l'audace d'accueillir chez elle les espions des Hébreux. Elle les a cachés. Elle a dit qu'ils s'étaient enfuis alors qu'elle les avait cachés. Elle a eu l'audace. Eh bien, elle a été sauvée. Elle avait mis le fil cramoisi à sa fenêtre. Et elle n'a pas péri avec le reste de la ville, mais elle a été sauvée de la destruction. L'audace, en fait, vous ouvre des portes nouvelles, des possibilités nouvelles. Sixième attitude de David, au verset 35, maintenant, c'est l'apprentissage dans le combat. Il écrit, donc, Dieu exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. C'est intéressant ce verbe exercer. Dans d'autres versions, autres traductions, c'est il enseigne ou il m'instruit. C'est le même mot quand vous voyez enseigner, instruire. Donc il apprend. David apprend de Dieu. Il apprend de Dieu à utiliser les armes pour être plus efficace. D'où l'utilité d'avoir les armes de Dieu. On parle des 6 armes du soldat de la foi que Paul présente, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice, les 6 armes. En fait, nous devons apprendre à les utiliser, mais apprendre de Dieu. Et chaque arme a sa fonction. Eh bien, David apprenait à utiliser l'épée, mais de Dieu. Il apprenait à utiliser l'arc, mais il dit, tu exerces mes mains. C'est toi qui m'apprends comment utiliser ces armes. Alors nous devons aussi nous apprendre et être prêt pour le combat. Bien des gens se préparent pour des événements de la vie importants, comme un mariage, une retraite, un grand voyage. Ils préparent ces choses-là pour être prêts le jour J. Mais les combats spirituels, frères et sœurs, ça se prépare minutieusement. Paul écrit à Timothée, « Exerce-toi à la piété. » Et ce mot « exercer », s'exercer, c'est le mot qui a donné « gymnase » en français, qui, à l'époque, était s'exercer comme un athlète dans le stade pour confronter les adversaires. Donc, s'exercer, c'est à la fois spirituel et c'est à la fois nécessaire pour les combats. Si vous voulez progresser, en fait, Dieu va vous apprendre comment utiliser ses armes et on a besoin d'apprendre de Dieu. Si vous dites, par exemple, « Moi, aujourd'hui, je sais déjà comment faire, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne davantage », bien, vous n'avancerez plus, vous ne pourrez plus progresser avec Dieu parce que vous êtes arrivé à un stade où vous dites « Moi, je n'ai plus besoin d'apprendre ». Mais David, lui, malgré toute son expérience, malgré sa victoire contre Goliath, malgré sa victoire contre les Philistins, malgré les grands combats qu'il a pu remporter, il dit « Seigneur, j'ai encore besoin que tu m'apprennes à combattre, j'ai encore besoin d'être exercé, j'ai encore besoin d'approfondir ma relation avec toi ». Et ça, c'est très important dans le combat, toujours s'exercer. Je termine avec un dernier principe au verset 38, c'est maintenant la détermination. Verset 38, détermination dans le combat. Regardez comment David traitait ses ennemis. « Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. » Tout ça, ça montre une détermination dans le combat jusqu'à ce que tous les ennemis soient anéantis. David donc ne laisse pas ses ennemis prendre le dessus sur lui, il les confronte, il les extermine jusqu'au dernier. Alors bien sûr pour nous, c'est une image parce que c'est l'ombre et la réalité, l'Ancien Testament, des choses spirituelles qui doivent arriver. Et pour nous, nous avons des ennemis que nous devons combattre. Comme Paul dit, veillez à ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il y avait un combat, il ne faut pas lui laisser l'avantage. Il faut combattre, il faut le faire reculer. Caleb aussi était déterminé. La Bible dit qu'il avait 85 ans, c'est déjà un âge honorable, et au lieu se reposer sur ses acquis, il y avait là une montagne avec des Anakim. Mais les Anakim, ce sont des géants. Mais il ne s'est pas laissé démonter par ces géants. Et il a dit à Josué, « Donne-moi cette montagne, moi je vais aller confronter les Anakim. » 85 ans, il avait encore de la détermination pour que tout ce que les ennemis du peuple de Dieu avaient encore, ben, il soit mis hors d'état de nuire. Et c'est ainsi que Caleb a remporté de grandes victoires. Aujourd'hui encore, il nous faut de la détermination. Peut-être vous êtes malade, la maladie dure. Soyons déterminés à ne pas baisser les bras et à continuer à prier. Peut-être les portes se sont fermées, vous avez essayé de trouver un travail. Les difficultés sont là. Continuons à prier le Seigneur pour qu'il ouvre la bonne porte. Des fois, on a envie de tout abandonner. On regarde aux circonstances défavorables. Mais soyons déterminés à continuer dans la prière et à regarder vers le Seigneur qui est tout-puissant. On va prier quelques instants. Vous êtes peut-être dans le combat spirituel, combat qui est dur, un combat qui est long, peut-être de nombreux combats. Et quelquefois, on a remporté une victoire et c'est bien. Mais un autre combat arrive et on est tenu en échec. Bien, soyons persévérants. On ne peut pas changer la fréquence des combats, on ne peut pas changer l'intensité des combats, mais on peut changer d'attitude et venir vers le Seigneur, adopter la bonne attitude. Je rappelle les 7 attitudes de David que nous pouvons prendre en exemple. Premièrement, louer Dieu dans les combats. Deuxièmement, prier avec la foi. Troisièmement, être vigilant. Quatrièmement, soyez intègre. Cinquièmement, soyez audacieux. Sixièmement, continuez à apprendre de Dieu. Septièmement, soyez déterminés. C'est ainsi que nous pourrons triompher dans les combats. Merci encore pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Parce que tu nous donnes la victoire dans les combats. Et comme David, nous voulons nous inspirer de cet exemple pour adopter ces principes et ces attitudes qu'il avait su discerner dans sa relation avec toi. Seigneur, pour être de ceux qui sont déterminés, pour être de ceux qui sont vigilants, pour être à l'écoute, Seigneur, de ta voix et ne pas nous laisser contaminer par notre vision. Ce matin, nous voulons dire que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Nous sommes faibles, nous sommes acculés peut-être d'ennemis nombreux. Mais ce soir, nous relevons la tête et nos yeux sont sur toi en attendant la délivrance qui vient de l'Éternel. Merci pour ta fidélité, parce que tu interviens pour tes enfants au cœur du combat. Merci parce que tu relèves le faible, parce que tu as compassion de celui qui souffre, parce que, Seigneur, tu soutiens celui qui est dans les combats spirituels et tu lui donnes les armes nécessaires. Nous voulons encore apprendre à utiliser ces armes. Nous voulons encore être à l'écoute de Dieu et combattre dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen.